Association,
économie,
culture,
actualité,
emploi,
sport,
loisirs,
social,
santé.
Radio Bulle vous donne la parole dans la quotidienne, du lundi au vendredi, sur le 93.6.
Radio Bulle 93.6.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Hier, dans la quotidienne, nous recevions André Furlan et Béatrice Aspar de l'association William Blake France. Ils nous ont présenté donc l'association, mais également nous avons fait un petit retour sur le succès de l'exposition Balade des Mondes qui a eu lieu cet été. On a parlé projet également. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir la suite de cet entretien où nous détaillons un petit peu plus la vie de William Blake et comment André Furlan a découvert William Blake, et vous allez voir que son histoire est assez étonnante.
Vous écoutez la quotidienne, sur Radio Bulle.
Radio Bulle 93.6.
Alors, comment avez-vous croisé la route de William Blake? Comment l'avez-vous rencontré?
Alors, waouh! Alors, j'étais aux États-Unis. Je vivais déjà à San Francisco parce que j'avais déjà commencé des études. Non, je devais rentrer à Berkeley. C'était mes premières années à Berkeley. Et en étudiant l'histoire de l'art, parce que c'est ce que je voulais refaire, j'avais repris mes études. Et c'est là que j'ai approché William Blake et j'en suis tombé amoureux. Voilà. Et j'ai voulu faire des études multidisciplinaires à cause de William Blake, puisque à Berkeley, j'avais été sélectionné comme un étudiant particulier, qui bénéficiait de, disons, seul de différents professeurs pour des études multidisciplinaires qui étaient, je voulais étudier déjà William Blake, le 18e anglais, l'architecture, la théologie, la mathématique, voilà. Et puis, j'avais plusieurs programmes et je voulais les suivre en même temps, qui m'a demandé 10 ans de plus. Et en même temps, j'avais eu l'approche d'une œuvre que je voyais pratiquement tous les jours. Et un jour, pour vraiment concrétiser cette impression que j'avais de cette œuvre, auquel je disais à mon collègue qui est décédé, qui était mon partenaire, qui s'appelle Harold Norman Duben, qui était un professeur, c'était mon partenaire, qui était diplômé d'Harvard, Columbia, Berkeley, avec quand même 4 doctorats. D'ailleurs, que j'ai ramené en France, parce que quand je suis rentré en France, j'ai ramené aussi le corps de mon partenaire pour l'enterrer en Irak. Et je lui disais que l'œuvre me parlait, qu'il y avait beaucoup plus de choses en cela, donc j'avais décidé de la décrocher. Et en la décrochant, j'ai observé que quelque chose s'était détaché. En fait, c'était dans l'encadrement, il y avait un petit plâtre qu'on a, avec les experts estimés et au laboratoire fait au début du 19e, quelqu'un avait caché cette serrure. Il y avait une petite serrure avec un petit plâtre, il s'est séché. Il avait été redoré pour pas qu'on le voie. Et le fait que ce petit plâtre, en sortant le tableau, est tombé, j'ai la clé, une clé qui ne se détache pas, qui est scellée à ce tiroir, s'est détachée et elle a apparu. Et j'ai donc tiré, évidemment, parce qu'une clé, il y a un tiroir, c'est ni plus ni moins qu'un tiroir, et j'ai découvert un manuscrit. Donc voilà, j'ai découvert ce manuscrit totalement par hasard.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là?
J'étais absolument persuadé que ça allait être énorme. Mais vraiment, vraiment, c'est pas possible. Déjà, le concept, moi j'avais déjà étudié, j'étais passionné d'art depuis déjà mon enfance, j'avais jamais vu un truc pareil. Il s'est révélé vrai, puisque dans les études qu'on poursuivit après, je vais prendre par exemple un exemple, il y en a beaucoup plusieurs, parce que j'ai travaillé avec pratiquement tous les chercheurs des grands musées du monde, vraiment, les éminences du domaine de William Blake, de l'architecture, de la science, de la mathématique, c'était un sujet multidisciplinaire. Même monsieur William Adair, donc de New York, qui est quand même un gros morceau, qui est l'éminence de l'encadrement en France, parce qu'il n'y avait pas que le tableau, il y avait aussi le manuscrit, le tiroir et l'encadrement. Le concept de l'encadrement, on n'en connaît pas un dans le monde de grands maîtres, et qui existe avec un tiroir, qui en fait, ce tiroir, qui est la partie secrète, c'est comme vous, le physique et le cerveau est à l'intérieur, qui est en fait le cerveau de l'œuvre. C'est vraiment ça. Et ce que dit ce manuscrit, en fait, il dit plein de choses. Il y a plusieurs lectures à effectuer sur ce manuscrit, parce qu'il est déjà avec des codes, et construit d'une façon bien spécifique, hein, pour mettre les choses simples. Donc c'est un petit peu comme les hiéroglyphes, hein, et sachez que Blake utilise beaucoup de codes. On a même des dictionnaires des codes. Mais enfin, là, ça allait beaucoup plus loin, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que si c'était un tiroir et qu'il était secret, donc c'est pour garder certains secrets.
Oui.
Donc Blake, ce n'était pas l'individu à crier sur les toits. Donc, ça m'a permis de connaître un petit peu jusqu'où Blake avait des connaissances, à quel point, qu'est-ce qu'il maîtrisait, qu'est-ce qu'il avait étudié, qu'est-ce qu'il était capable de faire avec ça. Là, c'est vous tombez par terre. Honnêtement, vraiment, dans le monde entier, mais au haut niveau, mais dans le monde entier, ils sont tous tombés par terre, sans aucun doute. Bien sûr, ils ont aussi approché mes résultats de recherche, la présentation le plus confidentiellement que possible, puisque je leur fais confiance et qu'on est dans des notions de partage. Parce que quand on partage, on peut aller beaucoup plus loin, puisque ça se retourne vers vous. On vous amène des éléments nouveaux que vous ne connaissez pas. Et là, ça a été le choc. Donc, ça a demandé pas mal d'années donc à traduire tout ce et à présenter ce travail, à étudier, parce qu'il y avait un gros intérêt aussi pour William Blake, pour l'art, le monde de l'art aussi. Il y avait tous ces sujets qui rentraient. Et de voir qu'est-ce qu'on ne savait pas dans le monde de l'art, par exemple la maîtrise de la 3D. Donc on a un paquet, je l'avais déjà présenté dans un film, mais alors là, il la maîtrise totalement. Donc, mathématiquement parlant, donc, bon, on sait que quand même, vous savez, je vais reprendre des petites histoires. Par exemple, les visionneuses, c'est une découverte anglaise. Et c'était la reine Victoria qui adorait la 3D. C'était des petites visionneuses, nos grands-parents en avaient. Oui, c'est des petits exemples. C'est anglais. D'ailleurs, un grand mathématicien anglais avait maîtrisé la 3D. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est très intéressant, tout ça. Donc, bon, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose d'anglais quelque part là-dedans. Mais alors, la maîtrise totale, ça c'est... Écoutez, même Jacques Côté, au monde, c'est un des plus grands scientifiques du domaine au monde. Quand je lui avais présenté le dossier, j'ai dit, tu sais Jacques, je suis sûr que j'ai raison, je ne peux pas l'inventer. Il m'a dit, écoute, je te fais confiance, on se connaît, je vais vérifier. Quand il m'a appelé, c'était le lendemain. En téléphone, donc, le lendemain, il m'a dit, je suis sur le choc de ce que je viens de voir. C'est pas possible. Fais très attention, ça va secouer la planète entière. C'est quelqu'un qui travaille sur des gros projets mondiaux. C'est un des plus gros que je n'ai jamais vu au monde. Il y en a qui n'ont pas encore réalisé, mais c'est pas grave. Okay. Bah, le public, et puis c'est difficile à présenter ça au public d'un coup. Hein, d'ailleurs, je n'ai jamais voulu le présenter d'un coup quand je l'ai présenté en 2014. Je n'ai présenter que certains sujets de l'œuvre, hein. Tout était là. Après, il y a des spécialistes qui sont venus, bien sûr, là, ils ont compris. Hein. Mais donc, c'était assez. Donc, la découverte s'est faite totalement par accident.
Oui, puis ça aurait pu, vous auriez pu vous intéresser à une autre œuvre.
Totalement, puisque je travaillais déjà avec plein d'œuvres que j'avais accès, j'avais vu des expositions, San Francisco avait des œuvres aussi, Legion of Honor de San Francisco avait des œuvres de Blake, j'avais accès au musée puisque j'étais très actif au musée, je faisais partie aussi du conseil d'administration du musée, vous voyez, je ne l'ai jamais dit, ça, Legion of Honor, ce n'est pas n'importe quoi quand même, ce sont des grands musées, je m'étais fait une réputation aussi au niveau des politiques et du milieu culturel et universitaire de la Bay Area, ce qui n'est pas n'importe quoi. En plus, mon partenaire qui était un des grands professeurs américains, un des plus gros diplômés, donc on avait quand même une certaine crédibilité. Et puis, je ne racontais pas n'importe quoi. Puis, j'étais capable de le présenter. Donc, vous savez, parler, c'est une chose. Le présenter, ça l'est une autre. Donc, voilà, tout a commencé comme ça. Et ma passion, ce Blake, n'a jamais tari. Et toujours, très... ma bibliothèque aussi, et elle se remplit de livres, même de plus en plus rares, certains. C'est vrai que j'ai une bibliothèque aujourd'hui que j'aimerais léguer donc au département, donc au musée, au projet qui se fait. Parce qu'il y a aussi une collection de 17 000 livres qui a été rare au monde. 17 000, je n'ai pas dit 16. Hein. C'est une bibliothèque. Bon, dans ce projet, on veut incorporer une bibliothèque. Il y aura la bibliothèque de Blake aussi, je parle de livres rares, hein, ils ne sont pas tous de Blake, mais 17 000, ça fait partie des projets. Alors bien sûr, on n'est pas éternel, mais qu'ils soient protégés et qu'on puisse y accéder et les utiliser, les prochains historiens, chercheurs, élèves, passionnés. Ouais, ça fait partie. Tout se rassemble pièce après pièce ensemble. Je pense qu'il faut aller comme ça. Alors voilà un petit peu l'histoire de Blake, hein, ce poète, graveur, peintre, pré-romantique, pas connu à son époque, tout de suite connu après. Beaucoup d'écrivains français au 19e l'ont mentionné. Bon, maintenant, il est présent dans les opéras du monde, dans la musique, dans les films, dans... on se le dispute, je dirais presque, même les psychologues, la philosophie de Blake est très très bonne en psychologie. Regardez tous les cabinets de psychologues et de psychiatres en Angleterre qui influencent leurs patients avec la lecture et la découverte de Blake. C'est complètement dingue ce que je dis, mais ça pullule.
Bah oui.
Donc c'est quand même un gros morceau, voilà, c'est ça. Et puis c'est quand même un homme passionnant, pour l'art, mais pour la connaissance, hein, l'accès à la connaissance. Pour ça aussi que peut-être au niveau même international, William Blake est très respecté par la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit dans le monde. C'est le. Voilà, c'est le. Il est présent pratiquement partout. Donc, il n'était pas franc-maçon. Il a côtoyé beaucoup de francs-maçons à son époque, c'est vrai. Okay, dans son vivant, puisqu'il n'a jamais voyagé. Mais par contre, dans son entourage, il est certain qu'il ne côtoyait que des hommes de lettres, cultivés, politiques, mais très éduqués. Il était très éduqué, c'était un autodidacte, brillant, poète brillant, peintre brillant, mari brillant, puisque ses relations qu'on connaît aussi, sa vie et sa façon aussi de vivre étaient assez, je dirais, avant-garde, puisque le sexe était une liberté pour lui d'en parler, d'essayer. Vous voyez, c'est un personnage, mais quelqu'un de très avant-garde. Donc certainement, comme toute chose très avant-garde, hein, nous, je l'ai à tout niveau, on l'a vu, nous, quand on a voulu faire un truc international pour la première fois en milieu rural, c'était trop avant-garde. On nous a repoussé plus qu'on nous a accepté. Hein. Donc c'est exactement le même, et je dis bien repoussé, hein, c'est pas facile. Donc c'était le même individu, et aujourd'hui, il est planétaire, il est étudié dans le monde entier. Regardez, ça fait trois ans, l'exposition William Blake à Paris. Le succès, quoi. Ça a été énorme. C'est une chance mondiale. Il y a eu l'année dernière aussi l'exposition William Blake à Londres, de nouveau. Là, c'était rempli du monde entier. Les gens venaient spécialement pour l'exposition à Londres. Donc, on est à ce niveau-là. C'est comme Da Vinci. On venait, mais du monde entier. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas avoir de billets si tu ne les avais pas réservés des mois à l'avance. Ou les hôtels, ou ceci, ou ça. C'est pas vieux, ça. Donc, vous voyez, on est quand même dans des voilà.
La puissance de l'homme libre qui traverse le temps. Parce que,
ouais, c'est fait, bien dit, ouais.
Ce qu'on peut dire de ce gars, alors moi c'est génial parce que toi tu l'as rencontré presque d'une manière William Blakienne qui t'a envoyé un message par de là le temps pour que tu le découvres. Et moi j'adore ça. Tu parlais de sa femme, il lui a appris à lire et à écrire,
à
et
sa
au
femme,
point qu'elle a même recopié ses poèmes après et tout ça. Bon, c'était pas,
qui était une femme,
c'était pas le dernier des machos visiblement, donc c'est déjà pas mal. Mais moi c'est vraiment surtout cette espèce de bouillonnement. Il a eu le bol que ses parents ne l'envoient pas faire des études de comptable, justement. Et, enfin, pardon pour les comptables. Mais bref, ils ne sont peut-être pas William Blake, par contre. Et qu'il a eu accès à des trucs qui lui ont permis de développer tous ses talents. Mais c'est son ingéniosité personnelle qui lui a permis de passer des siècles, dans la mesure où c'est lui qui s'est imprimé tout seul ses œuvres. Il a dessiné et tout. C'est très, très sombre, William Blake. Mais je me dis que peut-être il n'avait pas assez pour payer les couleurs. Si ça se trouve, il aurait enchanté le monde entier avec des couleurs vives. Mais je ne crois pas, parce que son univers est quand même très, très sombre, très, très ésotérique. Mais comment on y vient? Eh bien, je dirais, c'est par message. Moi, je dirais, c'est par message. Je ne vois pas la vie exactement comme ça tout le temps, mais de temps en temps, on se dit, mais quand même, tiens, pourquoi? Et moi, je sais que, bon, la première phrase qui était que, donc, jamais, enfin, que, en gros, que jamais l'aigle ne perdit tant de temps
pendant le conseil du corbeau, ça, elle m'a interpellée cette phrase. La première fois que j'ai lu, je ne savais même pas qu'il l'avait dite. Mais le film qu'a fait Jim Jarmusch, que j'aime beaucoup, qui est un très bon réalisateur, enfin, je n'ai pas besoin de le présenter, donc avec Johnny Depp, qui est cette espèce de traversée étrange de quelqu'un qui a pris une balle et qui va en mourir et qu'on emmène, donc qu'un Indien de rencontre emmène très loin, sans lui, jamais lui laisser le temps de manger. Ça, c'est ma, ma vision, c'est quand même quelqu'un qui s'affaiblit, et qui rejoint, le monde des ombres, parce que l'Indien en question pense qu'il est la réincarnation de William Blake. Et Depp ne peut même pas savoir qui est William Blake, et c'est l'Indien qui est allé en Angleterre en tant qu'enfant importé, comme il faisait à l'époque, qui lui apprend qui était William Blake. Donc ce film-là, il est entièrement pédagogique pour tout. Parce qu'il est, il porte l'histoire de William Blake en l'enseignant et par des biais qui sont intéressants. Parce que sinon, des fois, aller se cogner l'œuvre d'un personnage. En plus, c'est sombre, même si c'est, bon, il est très drôle. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a une philosophie de la vie extrêmement poussée. Mais des fois, on se demande juste si on a envie de le lire, parce que ça fait un peu noir tout ça. Donc voilà. Donc moi, je recommande Dead Man, avec la super musique de Neil Young. Je recommande Dead Man pour accéder à William Blake, parce que là, il y a tout. Il y a le western et il y a William Blake.
Voilà. Sinon, peut-être un livre à conseiller pour...
Le mariage du ciel et de l'enfer, c'est peut-être le plus... Il y a des poèmes auxquels on est préparé, je dirais. Nous, Européens de base, on est un peu préparés à ça.
En français, il y a celui de Jordisque, mais celui
je parlais de l'œuvre.
De l'œuvre. Il y a aussi, c'est intéressant, la philosophie, l'approche de l'académicien qui est décédé, avec qui j'avais beaucoup de contacts. C'était Yves Bonnefoy, qui a publié sur William Blake, il y a 3 ou 4 ans, le livre. Je le conseille, celui-ci, je le conseille. Jordi, je le conseille. Il y en a d'autres, en français, hein, parce que vous les avez dans toutes les langues. Je le conseille vivement, hein, celui de Bonnefoy, de Yves, je le conseille, de l'Académie française. Je le conseille, c'est bien écrit. Et on voit, lui était d'ailleurs poète aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, qui m'a d'ailleurs écrit une lettre gentille de l'Académie française en me disant que c'est à la veille de sa mort qu'il fallait qu'il rentre dans une œuvre aussi profonde et qu'on ne pouvait même pas un humain imaginer. Il me l'a écrit de l'Académie française. Vous savez, je fais très attention à ce que je dis. Et donc, il est décédé après. Et il avait publié, bon, il y a trop, il y avait Jordis qui avait sorti son livre aussi, hein, qui est encore en ligne, qu'on trouve facilement, il est partout. Je le conseille vraiment, parce que il a une bonne philosophie, c'est un philosophe, poète, bon écrivain, il a une bonne approche sur Blake, il le montre bien, pour être séduit de l'œuvre de Blake. Et ça mènerait à comprendre beaucoup mieux la découverte des œuvres de Blake. Voilà.
On va faire une petite pause musicale avec un artiste que vous avez sélectionné, André Furlan. Il s'appelle Pete Klimek. On se retrouve juste après pour continuer notre émission consacrée aujourd'hui à William Blake.
There's a ring around your finger, and it's made of solid gold. But the way that your eyes linger when they touch and hold my own makes me wonder who the girl is, with dark ribbons and faded hopes, in the company of silence, waiting for you to come back home. And you do, you do, you always do. There's a fire that burns between us, of desire and naked need. The world around us, but not the secrets that we keep, makes me wonder who the girl is, sitting by the phone, the only rings around her finger, with a semi-precious stone. It's you, she thought that she knew. leave me listening for the trains. It always seems just like forever until I see you once again. Makes me wonder who the girl is that I'll never get to know. She lies awake without you. She's lonely and she is alone, crying for you, crying for you. Me too, crying for you, crying for you, just like I do, crying for you. She's crying for you.
Écoutez la quotidienne sur Radio Bulle.
Radio Bulle 93.6.
Vous êtes toujours dans votre quotidienne, dans notre émission consacrée à l'association William Blake France. Et donc dans les studios de Radio Bulle sont présents André Furlan, le président de l'association, et Béatrice Aspar, membre de cette association. Et donc aujourd'hui nous parlons de la vie de William Blake. Alors est-ce qu'on pourrait parler de William Blake en France ?
Alors, on est, et j'arrête pas de le dire, on l'est plus, mais on a été les derniers dans le monde. En Afrique du Sud, ils connaissent plus William Blake, il y a des diplômes William Blake, vous imaginez, aux universités. C'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a des bonnes universités à Cape Town, hein, je prends un exemple. Bon, aux États-Unis, évidemment, Yale, vous savez, j'ai les comptes. Évidemment, quand vous avez fait William Blake, vous avez, si quelqu'un, n'importe qui, me dit, vous avez eu certainement des contacts avec Yale Center, c'est le centre universitaire de l'anglais, un des plus gros au monde, c'est Yale. Monsieur Patrick Noon me connaît très bien, voyez, je prononce les noms, là, j'ai besoin de listes, et toutes les correspondances, voyez. Donc vous voyez, aujourd'hui je me lâche un peu. Donc évidemment, donc les Américains, c'est sûr. Les Russes, vous savez que quand j'ai fait mes études, Moscou et les scientifiques de Moscou m'ont approché. D'ailleurs, ils m'ont publié sur leur journal officiel des sciences, voyez, on ne dit pas tout. Hein. Mm-hmm. Donc j'avais donc travaillé un petit peu avec les chercheurs russes sur certains sujets sur William Blake. Donc la Russie, William Blake, ils connaissent. L'Allemagne connaît très bien, voyez. Voyez donc les Hollandais, oh, c'est incroyable, voyez. Donc, mais en Europe, je dirais, plus maintenant, parce que, comme je vous le disais, on étudie William Blake dans l'université, vous pouvez avoir un doctorat en Blake. Grenoble a une très bonne université pour ça. Bordeaux aussi, je sais que vous avez quand même de grands professeurs à Bordeaux. J'en ai rencontré quelques-uns à Paris aussi, maintenant à la Sorbonne. Bon, il y a quelques universités, bien sûr, puisqu'il y a des élèves de Paris qui me demandent quelques conseils pour leurs études sur William Blake, pour leur thèse. Donc, on y est. Hein. Mais bon, mais c'est sûr que c'est pas facile pour un pays où, qui ne reçoit que des collections de prêts, comme on avait eu celle à Paris il n'y a pas longtemps, là, et de ne pas les avoir dans les musées, quoi. C'est toujours difficile. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, sont rares au monde. Hein. Blake n'a pas produit énormément, déjà, d'une part. Donc les œuvres sont d'autant plus rares, mais par contre, une représente vraiment des visions dans tous les domaines. C'est riche, hein. C'est riche, hein. Vraiment, c'est vraiment à ce point-là. Jamais, vous en remettez pas quand vous rentrez dans une œuvre, c'est pas possible, même qu'un être humain puisse capable de réaliser des complexités, des messages, des sciences, des savoirs.
Mmh. Parce que ce que vous me disiez justement sur l'œuvre,
oui,
la fameuse œuvre.
Oui.
qui est impossible à reproduire,
oui.
Qui prendrait beaucoup trop de temps.
Oui, tout à fait. Alors, on a essayé, puisqu'il y avait... Ça, c'était en 1900... J'ai des copies, une copie d'ailleurs originale, et une édition originale aussi, de 1965, de ce portfolio. Et dans ce portfolio, donc, les historiens étaient plusieurs, parce qu'il y avait plusieurs professeurs, les grandes universités américaines, avaient lancé ce projet, et qui a abouti d'ailleurs, sur l'opéra du Gueux, The Bégard Opera, donc ce fameux sujet, de Bleck et de Hogarth, enfin de Bleck entre autres, et ils avaient payé un artiste, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, Léo, je ne sais plus comment, qui était de New York, un grand maître de la gravure, de reproduire la plaque. Donc là, ils avaient le matériel de reproduire la plaque et de redessiner le travail de Bleck. Une année de travail, payé, 1965, payé. Impossible de terminer. Donc, ils ont publié sur le travail final, qui est assez proche, mais enfin, pas fini, on voit les différences, évidemment. C'était du suicide, 1965. Et déjà, aujourd'hui, des artistes auxquels on monte le travail, mais on ne peut pas les monter, le voilà. Donc, il faut ça, il faut ces burins, il faut ceci, il faut ces outils. Je m'y mets même pas, je pourrais même pas. C'est pas possible. Donc, ce qui explique aussi, dans ces études, dans les livres d'histoire, la question qui s'est souvent posée, pourquoi, parce que c'était resté un mystère jusqu'à temps qu'on le découvre, pourquoi Bleck avait passé autant d'années à travailler. Alors, bien sûr, ça vaut la spéculation, tous, parce qu'un artiste, il travaille sur une toile, il s'arrête, ceci. Non. Ici, c'est vraiment un travail considérable et de matériaux considérables qu'il vous faut pour la réalisation de cette œuvre. C'est impossible de la dupliquer, déjà, d'une part, donc on ne peut pas faire un faux. Et les matériaux qui y seraient très difficiles à acquérir, parce qu'il en faudrait des multiples, ce qui serait impossible. Et l'œuvre est protégée, bien entendu, mais d'une complexité, c'est incroyable, jusqu'au moindre détail. Ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques de Bleck. Très méticuleux, que ça soit le choix du papier, le choix de l'encre, les formes, tout est calculé. La matière, même la matière que vous ne voyez pas à l'œil, doit y être.
C'est ce que vous me disiez tout à l'heure hors antenne, que c'était très difficile de décrire l'œuvre de Bleck.
De la présenter. Alors, la présenter, je suis capable de la présenter, mais c'est une salle immense, avec toutes les décompositions, il faut y passer du temps. Donc, comme l'exposition, il faut y revenir deux ou trois fois, parce qu'il y a plusieurs, sujets à présenter dans l'œuvre. Et la décortiquer et créer le matériel pour le mettre en évidence, ce que j'ai fait. Mais il faut la présenter en musée et dans une salle, une œuvre seule, avec du multimédia présenté tout autour, qui décortique et qui présente toute l'œuvre entière, ce qui est costaud. Même la 3 dimensions, où là, j'ai déjà tout préparé, tout est fait. Avec Jacques Côté, en laboratoire, tout est fait, le matériel est préparé. C'est volumineux sur grand écran. C'est vraiment choquant, très.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la vie, peut-être, de Bleck. William Bleck?
Il sera immortel, il deviendra... Je pense que c'est un artiste qui continuera à grandir, en espérant qu'il en existe d'autres et que d'autres pourront prendre des artistes comme lui, absolument, j'espère que... il en existera d'autres et qu'on en découvrira d'autres.
Vous avez des idées d'artistes qui
pourraient être inspirés?
Oui, qui pourraient être aussi gros que aussi ça.
Ah oui, Léonard de Vinci.
Oui, dans le passé, il y en a eu. Parce
dans
que
le passé, là, maintenant.
Il appréciait Léonard de Vinci.
Aurel San. J'ai plein de trucs vachement bien.
Ouais. Il appréciait
Non, je rigole pas. Je trouve qu'il fait... Quand il fait quelque chose, on voit qu'il le fait de A à Z, à la perfection. Donc, je suis très, très impressionnée. Mais... c'était une boutade.
Oui.
De toute façon, j'arrive jamais à comparer un artiste à un autre, mais on est obligé quelquefois. Mais faut rester prudent avec ça. Mais des artistes qui sont capables de faire des choses comme ça, oui. J'espère qu'il y en aura, qu'il y en a. Moi, j'ai découvert des artistes. Bon, je ne vais pas les citer maintenant parce que dire c'est du parti pris, mais qui ont du talent, qui ont de grands talents. Je vais mentionner une artiste que j'ai je vais laisser Béatrice la mentionner. Que j'ai découvert, parce que, bon, qui est de grand talent, j'ai réservé 3 œuvres pour la prochaine exposition pour ce, dans les contemporains. Hein, c'est Véronique.
Elle s'appelle Véronique Gauguin, oui. Elle est la seule à faire ce qu'elle fait au monde. Le problème avec ces gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires, c'est que c'est post-mortem, souvent. C'est l'avenir qui le dit.
D'ailleurs, je lui ai écrit le soir même où j'ai bloqué 3 œuvres. Et c'est à toi que je l'ai dit, qu'elle me faisait penser à William Blake.
Ah oui, tu m'as montré un tableau avec la noirceur et la profondeur.
Mais bon, de ne pas le voir, c'est dommage. Mm-hmm. Mais là, je suis tombé de haut.
Il y a des gens extraordinaires, mais il y en a beaucoup qui sont très bons. Mais les extraordinaires, ils finissent par émerger. Il y a toujours un moment où ils émergent, mais pas toujours de leur vivant. C'est ça qui est un peu triste.
Oui, un peu, oui.
Mais bon, dans la mesure où ils sont transmis, quelque part, c'est... Turner. On va rentrer dans de la philosophie. Mais sinon, Blake, il a inspiré, mais je ne sais pas, même Patti Smith, les Doors, Henri Verneuil...
Nos grands écrivains français...
Il faut lire Wikipédia, il y a tout dedans.
Nos compositeurs français, la cinématographie, la littérature, c'est énorme.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur William Blake?
À découvrir. Prenez les choses simples. Il y a même des petits livres à 3 ou 4 euros qu'on trouve partout. Il y en a partout. Il y en a dans toutes les librairies. Prenez, lisez. Prenez un poème. Prenez une image. Il y en a sur le net. William Blake, c'est des millions de pages. C'est comme Da Vinci ou la Bible. C'est dans toutes les langues au monde, dans tous les coins de la planète. On en parle partout. Mais ouvrez, découvrez. Vous serez surpris, vraiment surpris. Vraiment, j'ai eu des échos. Beaucoup de gens qui en connaissent. Combien sont revenus? Mais oui, c'est ça. Je l'avais découvert. Ça, j'avais oublié. Mais c'est incroyable. Mais c'est exactement ça. C'est ça, les maîtres. Et il reste discret, en plus, quelque part. Enfin, on ne peut pas dire que Blake, il est discret, mais parce qu'il est quand même connu. Mais qu'il reste vraiment, vous voyez, discret. Voilà, on peut dire ça. Ouais. Mais il y a énormément de choses à apprendre.
Il est souvent cité, dans les rédactions de Terminal. Parce que il a la petite phrase. Par exemple, exprime toujours ton opinion et tu rencontres. Et tous les lâches te fuiront, ou un truc comme ça. Donc, des choses comme ça. Qui sont toujours des supports à la réflexion, en fait. Et qui sont. Oui, c'est des condensés de. C'est la petite phrase. Maintenant, on appellerait ça la petite phrase qui fait le buzz et tout ça. Mais il était super doué pour ça. Ça a traversé les siècles. Donc,
et beaucoup d'intellectuels. Hein,
mais il n'est jamais venu à l'Irak.
Utilise une citation de Blake. En fin de discours, au milieu de discours, beaucoup. Regardez la reine Elisabeth. Bon, vous me direz, elle est anglaise. Bon, c'est quand même un artiste préféré de la reine Elisabeth, hein, qui m'avait d'ailleurs, au niveau des recherches et des résultats, envoyé une lettre très personnelle, très, très, très gentille, qui avait surpris les Nérakais, que c'était impossible. Je dis, vous avez dit, j'ai contre, mais non, mais ça c'était personnel. Donc, j'ai eu des échanges, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui possède un des dessins, déjà, d'une part, qui est aussi. Adore William Blake, et si vous écoutez ses discours, elle dit jamais, mais depuis toute sa vie, dans beaucoup de discours, elle termine toujours avec une citation, c'est toujours une citation de William Blake. Vous voyez, elle dit pas c'est William Blake, mais vous voyez, donc, et c'est pas la seule en France aussi, et dans le monde entier aussi, beaucoup d'intellectuels de divers domaines, milieux, finissent avec une citation de William Blake. Et il y en a beaucoup, hein, que j'adore, vous savez que je les ai publiés et qu'on les a mis en grand partout et qui plaisent. Hein. Tout le monde prend note, c'est incroyable quand on les publie. On avait fait de grands panneaux pour des expositions, pour décorer des salles, des arrière-salles. Et vous avez tout le monde, vous voyez les gens prendre des. Vous n'avez pas un crayon? Oh, je la veux celle-ci, je veux cette citation. Mais j'ai dit, pouvez-nous publier un livre, on m'a même demandé, j'ai dit non, je n'ai pas même déjà publié les citations pour des raisons commerciales, elles sont partout, vous les trouvez, vous pouvez les prendre ici, on a un livre ici parce que j'en mets de temps en temps sur mes catalogues, c'est à ce point-là.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci André Furlan. Donc, je rappelle, vous êtes le président de l'association William Blake France. Et merci beaucoup Béatrice Aspar. Vous êtes membre de cette même association.
Et avec plaisir.
Merci à vous tous et merci à toute l'équipe de Bulle de nouveau. Merci.
Vous écoutez La Quotidienne sur Radio Bulle.
Radio Bulle 93.6.
C'est la fin de votre quotidienne. Cette émission sera rediffusée à 17h et sera à retrouver en podcast sur radiobulle.net. Pour suivre toute l'actualité de l'association William Blake France, rendez-vous sur test.williamblake.fr. Passez une très bonne journée à l'écoute du 93.6.
C'était la quotidienne. C'était la quotidienne.
Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiobulle.net.
Radiobulle 93.6.